Donc, on va commencer là avec la communication de Camille Rux-Patel, juste pour dire deux mots d'introduction. Camille Rux-Patel est donc enseignante-chercheure à l'Université d'Angers et elle a été ancienne Florence Gould Fellow à la Villa Itati de Florence. Et puis ancien membre aussi de l'École française de Rome. Et ses travaux portent sur les relations entre les communautés chrétiennes latines, grecques et orientales au Proche-Orient. Et elle a notamment publié une monographie, L'Occident au miroir de l'Orient chrétien, Cilicie, Syrie, Palestine, Égypte. Et aujourd'hui, donc, elle va nous parler de Florence, Rome, Florence, Le Caire et Jérusalem, les missions de franciscain Albert de Sartiano.
Merci beaucoup, monsieur, de m'avoir invité pour cette journée d'études, pour ce colloque. Bonjour à tous. Je vais donc faire une incursion médiévale en terre moderne et dans le domaine des modernistes, puisque nous allons parler du début du XVe siècle. Moi, je ne suis absolument pas moderniste, donc, mais médiéviste. Alors, entre 1435 et 1437, alors que Gênes IV recevait les ambassadeurs byzantins pour préparer l'union de Ferrare-Florence, donc 1438-1439, il envoyait à Jérusalem le franciscain Albert de Sarteano, un proche de Bernardin de Sienne, pour y porter la réforme de l'observance, nouer des contacts avec les chrétientés orientales et soutenir par ses lettres la présence franciscaine en Terre Sainte, dans ce que les chrétiens appellent la Terre Sainte. Après quelques péripéties, il parvient à imposer à la tête de la custodie un frère observant, Gandolfo de Sicile. Dès lors, le couvent du Mont-Sion apparaît comme un lieu clé pour étudier les modalités de la présence latine au cœur du sultanat mamelouk et de ce que les chrétiens considèrent comme la terre de l'incarnation et de la passion entre réforme avec l'observance et lien avec les églises grecques et orientales et avec les autorités islamiques. Nous allons donc plutôt parler du couple religion-État qu'évoquait Sanjay Subramaniam à l'instant. En 1439, le pape charge Albert de Sarteano d'une nouvelle mission destinée à préparer l'union avec les églises coptes et éthiopiennes. Le franciscain part alors pour le Caire. Sa mission se conclut le 4 février 1442 par la bulle d'union avec l'église copte, Cantate Domino, impliqué dans la politique d'union de la papauté et la présence des franciscains à Jérusalem. Il l'est donc aussi dans les débats entre conventuels et observants qui agitent son ordre. Et c'est cette articulation entre politique d'union, débat de l'observance, présence des franciscains à Jérusalem que nous allons essayer de voir ensemble ce matin. À partir donc de ces deux missions à Jérusalem, puis au Caire. Ces missions font intervenir trois églises principales, l'église latine via la custodie de Terre Sainte à Jérusalem, l'église copte et l'église éthiopienne, ainsi que le pouvoir souverain auquel elles sont soumises, le sultanat mamelouk du Caire et ses différents agents et administrateurs, civils et religieux. Suivre le parcours d'Albert de Sarteano suppose alors de se confronter au risque d'écrire une histoire centrée sur le seul point de vue romain, de considérer l'histoire des médiations entre Occident et Orient chrétien et islamique au seul prisme du contexte romain et plus largement occidental. Pour cela, nous avons à notre disposition deux garde-fous. Changer de point de vue, en considérant la mission d'Albert de Sarteano depuis le contexte proche-oriental, et non pas uniquement le Proche-Orient, custodie incluse, à travers le témoignage du franciscain, et recourir à un corpus étendu typologiquement et diversifié linguistiquement, afin de mener une analyse en contexte de ces missions, un contexte à la fois occidental et oriental. C'est donc ce à quoi je vais m'essayer ce matin à partir de l'analyse de ces deux missions, en vous précisant que ce n'est pas une simple précaution oratoire, que mes recherches sur le sujet n'en sont qu'à leur balbutiement et que je commence à explorer à peine les archives de la custodie de Jérusalem, dont il sera beaucoup question dans un instant. Donc commençons par cette première mission qui nous occupera pour l'essentiel ce matin, donc la mission à Jérusalem. Entre la fin de l'année 1435 et le mois d'août 1437, Albert de Sarteano est envoyé donc par Eugène IV à Jérusalem pour y mener une mission auprès de la custodie franciscaine qui a alors près d'un siècle d'existence. Trois facettes de la custodie transparaissent dans les lettres envoyées par Albert à divers correspondants occidentaux. D'abord, la custodie comme caisse de résonance des enjeux internes à l'ordre, l'ordre franciscain, à savoir la lutte entre conventuels et observants dans le contexte d'une actualité grecque et orientale brûlante. Deuxième facette, la custodie comme le produit d'une présence négociée des franciscains au sein du sultanat mamelouk du Caire, Troisième facette, la custodie comme l'instrument d'une présence latine à l'échelle du Bilad al-Sham, voire du sultanat mamelouk. Après une rapide évocation de ce qu'est la custodie et de sa situation institutionnelle au sein de l'ordre à l'arrivée de Sarteanu, nous envisagerons successivement ces trois facettes afin de montrer que les franciscains installés de manière pérenne à Jérusalem et en Syrie-Palestine, le Bilad al-Sham des sources arabes, sont autant impliqués dans les débats internes à leur ordre et à l'Église romaine qu'ils sont des acteurs à part entière d'une société proche-orientale complexe, interagissant constamment avec leur environnement social, culturel, religieux, politique immédiat, à savoir les autres églises et communautés chrétiennes, chalcédoniennes et non chalcédoniennes, et l'islam. Enjeux occidentaux et proches orientaux s'entrelacent pour comprendre ce qui se joue dans la mission d'Albert de Sarteanu. Quelques mots sur la custodie de Terre Sainte si vous n'êtes pas familiarisé avec cette institution. La custodie est fondée en 1342 par la bulle Gratias ad Gimus et Nuper Carissimae. Elle comprend au départ les monastères d'Acre, d'Antioche, de Sidon, de Tripoli, de Jérusalem et de Jaffa. Elle a pour premier siège le monastère du Mont Sion, établi, que vous voyez ici, au niveau du Cénacle. Donc le monastère du Mont Sion, donc édifié auprès du Cénacle, sur le terrain concédé en 1333 par le sultan mamelouk al-Nasir Mohammed au frère Roger Guérin d'Aquitaine. Il s'agit d'une subdivision de l'une des 11 provinces mères créées dès le chapitre général de 1217 et connue dans les sources sous divers noms, provinces de Syrie, de Romanie ou d'Outre-mer. Le chapitre réuni au couvent du Mont Sion en 1377 décrète, je cite, que le custode, c'est-à-dire le gardien du Mont Sion, est le supérieur des autres établissements de Terre Sainte. C'est-à-dire que le provincial de Terre Sainte, qui réside à Chypre, n'a pas d'autorité sur le custode et les différents établissements et communautés établis en Terre Sainte. C'est dire toute l'importance de la fonction de custode. C'est dans ce contexte qu'intervient la mission d'Albert de Sarteanu. Celle-ci a deux finalités principales. L'installation d'un nouveau custode du parti de l'observance et le soutien de la présence franciscaine à Jérusalem et en Terre Sainte, dont nous verrons qu'elle revêt d'abord un aspect financier. C'est donc d'abord une custodie au prisme des enjeux de pouvoir interne à l'ordre franciscain que nous donne à voir l'envoyé de Gênes IV. Voyons un petit peu plus précisément cette custodie comme caisse de résonance des enjeux internes à l'ordre. Alors, qu'est-ce que l'observance? Ici, la lutte entre les observants et les conventuels. L'observance, comme dans toute réforme digne de ce nom, c'est un retour à la règle, ici donc la règle franciscaine, dont les évangiles, bien évidemment, constituent l'hypernorme hypotextuelle. Donc l'observance se veut un retour à la vie évangélique. On comprend dès lors assez facilement l'enjeu que peut constituer le contrôle de la custodie de Terre Sainte pour les franciscains observants. À cela s'ajoute la légende du voyage de François à Jérusalem et en Terre Sainte, légende liée à l'épisode de la prédication du fondateur de l'ordre auprès du sultan Ayyoubide al-Kamil, dont l'ordre fête cette année le 800e. Si l'on comprend assez aisément le lien structurel qui peut lier, lien structurel et symbolique, qui peut lier les observants à la custodie, penchons-nous à présent sur l'importance plus conjoncturelle qu'elle représente dans cette première moitié du XVe siècle pour les franciscains, observants et conventuels, et pour le pape. Dans la lutte entre conventuels et observants, il est bien évident que le parti qui tiendra la custodie prendra de fait un avantage symbolique sur ses opposants. Pour ce qui est maintenant du pape, la papauté est alors confrontée à une actualité grecque et orientale fort importante. Pourquoi ? Après les débats sur la gouvernance de l'Église, suscités par la crise du grand schisme d'Occident, quand il y avait deux papes, voire trois, à la tête de la papauté, donc entre 1378 et 1417, le pape Eugène IV, qui a succédé en 1431 à Martin V, dont l'élection en 1417 a mis un terme au grand schisme, est alors en butte aux cardinaux réunis à Bâle, dont les projets réformateurs visent à affirmer l'autorité du collège cardinalis, qui tire sa légitimité du collège apostolique, face à l'affirmation de la monarchie pontificale fondée sur la succession pétrinienne. Deux modèles de gouvernance s'opposent, le pouvoir collégial face au pouvoir d'un seul. Dans ce contexte, l'union avec les églises grecques et orientales prend toute son importance. Celui qui réalisera l'union prendra l'avantage en l'affirmation de l'universalité de son pouvoir. Un détail doit retenir ici notre attention. Parmi les destinataires de Sarteanu, notamment de la lettre dans laquelle il critique avec une verve peu commune le procurateur de Terre Sainte, assurément un conventuel, le cardinal Julien Cesarini, parmi les destinataires. Or, après avoir défendu le conciliarisme à Bâle et l'ouverture du concile à l'Église grecque, le cardinal Julien Cesarini, accompagné de son disciple et ami Nicolas de Cuse, est l'un des acteurs les plus actifs du triomphe de l'Union sur la réduction des Grecs, réductio graecorum. l'union de foi dans le respect de la diversité des rites, véritable révolution par rapport aux thèses jusqu'alors défendues par Eugène IV. À l'issue du concile, après la lecture par Bessarion du décret d'union en grec, Julien Cesarini en fait la lecture en latin. Dans cette perspective, la custodie et donc son contrôle revêtent une importance particulière en tant qu'institution représentant l'Église romaine dans les lieux saints et jouant un rôle d'intermédiaire entre l'Occident et l'Orient chrétien et islamique. Passons à présent au second point, au deuxième point pardon, que nous voyons à travers les lettres d'Albert de Sarteano, les franciscains en Terre Sainte comme présence négociée, comme le résultat d'une présence négociée. Et donc voyons quelle situation découvre Albert de Sarteano à son arrivée à Jérusalem. Donc il part pour Jérusalem à la fin de l'année 1435. Pour où part-il ? Il part certes pour ce que les chrétiens reconnaissent comme la Terre Sainte, la terre de l'incarnation et de la passion du Christ, mais aussi, sinon d'abord, pour le Bilad al-Sham des sources arabes, placé depuis les victoires de Baybars sous la souveraineté du sultanat mamelouk du Caire. Le sultanat mamelouk est né au milieu du XIIIe siècle de la double menace que font peser les croisés et les mongols sur l'Égypte et la Syrie. Il se caractérise, comme vous le savez sans doute, par une structure d'empire fondée sur l'esclavage militaire. En outre, Albert de Sarteano part pour une destination bien précise au sein de la ville sainte de Jérusalem, la custodie franciscaine. La confrontation entre les lettres écrites en latin par Sarteano et les archives en arabe conservées à et par la custodie fait apparaître un fort contraste entre la rhétorique destinée, je le rappelle, à soutenir la présence franciscaine en Terre Sainte et d'abord à Jérusalem, et la situation des frères placés au même titre que leurs coreligionnaires sous le statut de la dhimma ou pacte de protection. Le discours de Sarteano sur l'islam et sur la situation du Proche-Orient relève de la politique anti-islamique ordinaire. Critique de Mahomet comme pseudo-prophète, légende du moine Serge. Il relaie également longuement une légende plus originale sur laquelle je ne m'attarderai pas, mais qui est intéressante, toujours dans sa lettre à Julien Cesarini, celle d'un chrétien devenu mamelouk à l'origine de l'édification de la mosquée du Sinaï. Cette légende, me semble-t-il, est à rapprocher de la légende née autour de la figure du sultan Barkouk, donc à la fin du XIIIe siècle, du XIVe siècle, pardon, et de la vie que lui consacre peu avant Beltramo Mignanelli, Lascensus Barkok, seul sultan mamelouk à avoir une vie latine, donc écrite peu avant l'arrivée de Sarteano à Jérusalem. Néanmoins, plusieurs mentions furtives laissent apparaître, sous la plume du franciscain, la réalité vécue par les frères, bien loin de la vulgate anti-islamique, attendue de ses lecteurs occidentaux, celle d'une présence négociée. Présence négociée avec les sultans mamelouks et leurs représentants, depuis un siècle et la fondation de la custodie, après la disparition des derniers lambeaux des États francs. Présence négociée aussi dans un rapport de force qui est loin d'être favorable aux latins. Cette présence négociée, dont Albert a été le témoin et un acteur direct, nous y reviendrons, perce donc sous la rhétorique de l'envoyé pontifical. Plusieurs indices nous y conduisent. La dénonciation des agissements du procurateur de Terre Sainte, dans la lettre donc envoyée par Sarteano au cardinal Giuliano Cesarini, procureur coupable selon Sarteano de détourner les subsides qu'il dit rassembler pour soutenir la custodie de Terre Sainte, les remerciements adressés au duc de Bourgogne pour l'argent envoyé à la custodie et l'insistance sur l'œuvre de bâtisseur de murs des franciscains. Pour lire ces différents indices, il convient de croiser les lettres écrites par Albert de Sarteano depuis Jérusalem aux archives conservées par la custodie. Je voudrais ici, si vous le voulez bien, dire quelques mots de ces archives, dont plusieurs actes sont au fondement de ma communication de ce matin, archives donc dont je commence à peine l'exploration et l'analyse. Parmi les archives des institutions latines dans le monde islamique, les archives de la custodie de Terre Sainte, conservées à Jérusalem, présentent sans doute le plus grand intérêt historique. L'ordre franciscain est la seule organisation, exception faite de l'Église maronite, à assurer une continuité de présence et d'activité en matière archivistique depuis les premières décennies du XIIIe siècle, soit un siècle avant la fondation de la custodie, et à rendre compte par une documentation bilingue latine et arabe, jusqu'à la période ottomane, des relations avec l'Occident, papauté et ordre mineur, avec les pouvoirs islamiques et avec les églises grecques et orientales. En outre, par l'implantation franciscaine en Syrie, en Palestine, en Égypte, les archives de la custodie reflètent l'ensemble du monde chrétien local et rencontrent une géographie culturelle et institutionnelle de l'Orient chrétien et islamique, vue de l'Église latine, et au prisme missionnaire, avec ses centres et ses périphéries. Les archives de la custodie sont en grande partie inédites et très largement sous-exploitées. Le catalogue établi par Castellani en 1922 recense 2644 documents sur environ 3002, et l'édition de Riciani, publiée en 1928, est plus que partielle, puisqu'elle concerne 28 actes, donc sur plus de 3000, et recouvre une période allant de 1374 à 1480, sans exhaustivité. Il ne s'agit pas ici de critiquer le service des archives de la custodie, avec lequel je travaille maintenant depuis plusieurs années, juste d'insister à la fois sur l'exceptionnalité de ces archives, dans la perspective d'un renouvellement de nos connaissances sur l'histoire de Jérusalem à l'époque mamelouque, et de nous mettre en garde sur les résultats tout provisoires que je vous présente ce matin, dans l'attente d'investigations plus poussées et plus systématiques. Le cas d'étude que je vous présente à partir des missions du franciscain Albert de Sarteano vise en partie à montrer l'intérêt de ces archives pour analyser à la fois la médiation voulue et construite par la custodie et son inscription territoriale, sociale et religieuse à Jérusalem et à partir de certains fonds, des aspects plus particuliers et moins homogènes des rapports entretenus avec Rome, l'ordre franciscain, les autorités mamelouques et les églises grecques orientales présentes à Jérusalem. Les documents publics et privés relevant de la première période, donc 13e-16e siècle, regroupés dans le fonds dit des firmans, comptent pour l'essentiel des attestations, des autorisations, des décisions juridiques en tout genre, des documents encadrant l'activité missionnaire, des reconnaissances officielles, des décisions judiciaires, des titres de propriété, des droits civils et ecclésiastiques, des actes d'achat et de vente. L'analyse de ces documents vise à définir l'inscription territoriale et normative des franciscains à Jérusalem et à approcher, autant que faire se peut, les relations quotidiennes avec les diverses communautés orientales, chrétiennes et musulmanes. Dans le cadre de ce qui nous occupe ce matin, les actes étudiés permettront de mettre en évidence le rôle de médiation de la custodie et la complexité d'une présence à Jérusalem, que je qualifie donc de présence négociée, afin de mieux comprendre les enjeux de la mission de Sarteano à Jérusalem et de dévoiler ce que masque la rhétorique de ses lettres. Quelle situation découvre donc Albert de Sarteano en arrivant à la custodie? Il découvre d'abord un monastère en ruine, du moins en mauvais état et nécessitant des travaux de réhabilitation. Je ne déduis pas cela uniquement de l'usage intensif par Sarteano dans ses lettres du motif des ruines pour caractériser la situation de la custodie, topos bien connu dans la littérature latine et la polémique anti-islamique à partir de la première croisade. Il se trouve que la réitération sous la plume du franciscain de ce topos des ruines, de l'activité des franciscains comme bâtisseurs de murs et de la dénonciation du procurateur de Terre Sainte sillonnant la Méditerranée à la recherche de subsides qu'il détournerait à son profit, trouve un écho dans la Hujja, une décision motivée du sultan Bars Bey, datée de l'année 1436, et dont les archives de la custodie conservent le dossier dans son ensemble, de la requête formulée par le custode, frère Giacomo Delfino, le 5 janvier, au gouverneur de Jérusalem et d'Hébron, jusqu'à la description des travaux effectués, datée du 30 juin 1438. Le dossier est principalement composé des différentes consultations juridiques, donc fatwas, nécessaires à la résolution de l'affaire. Donc quand Albert de Sarteano arrive à Jérusalem, le custode vient juste d'envoyer sa requête pour effectuer des travaux de réparation au sein du couvent du Mention. Donc il s'agit pour les franciscains de demander cette autorisation de réparer ce qui doit l'être, mur, toit, terrasse, plancher, couloir, escalier, rien que ça, dans l'église comme dans les bâtiments destinés au logement des frères dans le monastère du Mention. Les réparations demandées et réalisées sont très détaillées, jusqu'aux matériaux utilisés dans les travaux, pierre, chaux et limon, et jusqu'à la mention du sumac, qui a provoqué des fissures au niveau des murs d'enceinte du monastère. Morale de l'histoire, si vous tenez à vos murs, ne plantez pas de sumac à proximité. La procédure s'étend sur deux années, donc 1436 et 1437. Elle implique, outre la custodie, les autorités mamelouques de Jérusalem, plusieurs chaires, trois des quatre écoles de pensée musulmane, donc Madhab, du Caire et de Jérusalem, en l'espèce les écoles Shafi'ite, Hanafi'ite et Malikite. La procédure passe par une plainte contre la custodie pour non-conformité des travaux réalisés, plainte déposée par Oumar, fils d'Ali al-Djawari, plainte dont il est débouté, une visite du monastère par les autorités juridico-religieuses de Jérusalem pour précisément vérifier la conformité des travaux effectués, et enfin, précise les noms des maîtres d'œuvre chargés de diriger les travaux ainsi que leur lieu de résidence, un village situé à proximité du Mont des Oliviers, Machad. Que nous apprend cet ample dossier composé de 9 documents, chacun correspondant à la sentence rendue par les différentes autorités convoquées? Outre qu'il nous donne un fourmillement d'informations sur la communauté franciscaine, la topographie et l'architecture du couvent du Mention, sur la prosopographie de l'administration juridico-religieuse hiérosolomitaine et kérote, sur la population hiérosolomitaine et des alentours via la mention des maçons donc en charge des travaux, ce dossier dit avec éloquence la complexité des relations unissant la custodie aux autorités mamelouques qui ne sauraient se limiter au constat minimal de l'existence d'un cadre légal, la DIMA ou pacte de protection, fixant les conditions d'existence de la communauté franciscaine et d'exercice du culte latin. C'est à cette réalité qu'est confronté Albert de Sarteano à son arrivée à Jérusalem, au moment précis où est formulée la requête du custode. Nous pourrions même aller jusqu'à émettre l'idée que les deux sont liés. Il faut néanmoins, avant de formuler des hypothèses, tenir compte du conflit latent au sein de la communauté du Mention, rappelez-vous, entre conventuels et observants, conflit qui éclate précisément à l'arrivée de Sarteano, chargé par Eugène IV, d'imposer un observant à la tête du monastère du Mention, en lieu et place du custode en fonction, appartenant donc, selon toute évidence, au parti opposé, celui des conventuels. Averti de l'arrivée de l'émissaire pontifical, dont la mission consistait aussi à soutenir la communauté franciscaine de Jérusalem par l'obtention de subsides auprès des cours princières occidentales, soit le custode tente de court-circuiter donc Sarteano en entamant une procédure dont le financement serait assuré par les fonds réunis par le fameux procurateur de Terre Sainte, également conventuel. Je vous rappelle la description donc haute en couleur de Sarteano de ce procurateur. Soit le custode formule sa requête en anticipant le succès de Sarteano pour lever des fonds, faisant fi des conséquences pour son monastère et sa communauté du conflit qui oppose donc au sein de l'ordre conventuel et observant, conflit dans lequel le pape a tranché puisqu'il envoie Sarteano pour précisément installer un observant à la tête de la custodie. J'ai tendance à pencher en faveur de la première hypothèse qui expliquerait du même coup l'ampleur et la tonalité du portrait que dresse Sarteano du procurateur de Terre Sainte. Dans cette hypothèse, le custode, donc un conventuel, utiliserait les lenteurs et la complexité de l'administration et des procédures judiciaires mamelouques pour défendre ses intérêts propres et ceux de son parti. La formulation d'une telle requête assoit son autorité vis-à-vis de la communauté du Mention, comme vis-à-vis de l'ordre, et lui laisse le temps de réunir les subsides nécessaires à son entreprise, tout en profitant des retombées en cas de succès. Cela constituerait un exemple, parmi d'autres, d'adaptation d'une communauté placée en situation de minorité politique aux normes mises en place par le dominant, le sultanat mamelouk, et le détournement de ces normes à son profit. Cette stratégie, si stratégie il y a fonctionné à court terme, puisque le premier candidat de Sarteano, Nicolas d'Osimo, a finalement été écarté face à l'opposition suscitée à Jérusalem comme en Occident, ainsi que l'expose Sarteano toujours à Julien Cesarini. En revanche, elle a échoué à moyen terme, puisque le candidat malheureux a été remplacé cette fois avec succès par un autre observant, Gandolfo de Sicile, installé en 1439 par un autre observant, ami de Sarteano, Jean de Capistran. L'environnement immédiat des franciscains de Jérusalem ne se limite pas aux musulmans, qu'il s'agisse des agents du sultanat mamelouk ou des artisans chargés de la réfection des bâtiments cultuels et non cultuels de la custodie. Il est aussi composé des autres églises et communautés chrétiennes présentes à Jérusalem, qu'il s'agisse des clergés et des communautés qui y vivent ou qui y viennent en pèlerinage. Une communauté est particulièrement mise en exergue dans les archives de la custodie, les Géorgiens. Sans qu'il soit possible d'apporter une explication certaine et définitive, il est possible d'avancer l'hypothèse que leur mention préférentielle soit liée à l'importance renouvelée de l'église géorgienne et des églises miaphysites à Jérusalem, c'est-à-dire les églises coptes et arméniennes, depuis la conquête ayoubide, c'est-à-dire la prise de Jérusalem par Salah ad-Din en 1187. Concernant les relations avec les premiers, c'est-à-dire les chrétiens durablement installés à Jérusalem, deux indices nous mettent sur la voie. D'abord, la confirmation des droits des franciscains au calvaire contre les revendications géorgiennes dans un acte émanant de Barkouk, daté de 798 en année égir, 1396 pour le calendrier chrétien. Ensuite, la mention d'un cimetière commun aux franciscains et à l'ensemble des chrétiens à proximité immédiate du couvent du Mention, donc toujours au niveau du Cénacle, donc à l'extérieur des murailles de Jérusalem, à proximité du Cénacle, dont plusieurs donc, mentions de ce cimetière dans plusieurs des actes datés du Cénacle de Barzbay que nous venons d'évoquer donc, au sujet des relations entre la custodie et les autorités mamelouques au moment de la mission d'Albert de Sarteano. Le premier indice, c'est-à-dire la confirmation des droits des franciscains au calvaire, est révélateur du climat de compétition entre les églises qui place les autorités mamelouques de Jérusalem en position et en situation d'arbitre. 50 ans plus tard, sous le règne du successeur de Barzbay, Jacques Mac, le calvaire est à nouveau l'objet de contestations entre les églises, cette fois au profit des Géorgiens contre les Arméniens, ce qui n'empêche pas le même sultan d'accorder une exemption de taxe En 1450, cette fois au couvent arménien, suite à l'intercession du gouverneur de Jérusalem, Seyf al-Din al-Makari. Le second indice, la mention d'un cimetière à l'usage de l'ensemble des églises, situé à proximité du couvent du Mention, donc à l'extérieur des murs de la ville, va quant à lui dans le sens d'une coexistence, contrainte ou voulue, je pense plutôt contrainte, des églises quant à la gestion de l'espace funéraire. Quant aux relations avec les pèlerins des autres églises, deux actes datés respectivement des sultanats de Barkouk et de Barzbay permettent de les préciser. Le premier, daté du 19 novembre 1380, protège les pèlerins géorgiens de tout mauvais traitement de la part du représentant du sultan à la résurrection. La résurrection, c'est le Saint-Sépulcre. Vous savez qu'en grec, on parle de résurrection, en arabe aussi, alors que les latins vont insister sur le tombeau, donc le Saint-Sépulcre. Donc, les protégeant de tout mauvais traitement de la part du représentant du sultan à la résurrection, donc Shihab ed-Din, dès lors qu'il paye le tribut dû au sultan. Dès lors se pose la question de savoir comment un tel acte a pu tomber entre les mains des franciscains. C'est un acte qui concerne exclusivement les géorgiens. Qu'est-ce qu'il fait, hein, que fait cet acte dans les archives de la custodie? Je vous propose deux hypothèses. Soit les franciscains le possèdent en vertu de leur responsabilité devant les autorités mamelouques, de l'ensemble des pèlerins, quelle que soit leur église, soit les géorgiens ont bénéficié de l'intercession des frères de la custodie pour obtenir ledit acte. La première hypothèse se fonde sur un acte, toujours de Barkouk, dans lequel les franciscains, en tant que responsables devant les autorités mamelouques de l'ensemble des pèlerins, ça veut dire quoi être responsable de l'ensemble des pèlerins? Ça veut dire essentiellement être responsable du paiement des taxes et du bon comportement des pèlerins, également de leur accueil. Accueil dans les hospices de la custodie, notamment celui du Mention. Donc, les franciscains, en tant que responsables des pèlerins, s'opposent aux tentatives des officiers mamelouks d'extorquer aux pèlerins une taxe à chaque visite des lieux saints et non une fois pour toutes à leur arrivée à Jérusalem. C'est-à-dire que les pèlerins viennent à Jérusalem, s'installent donc dans les hospices qui sont situés soit à l'extérieur, essentiellement à l'extérieur, donc au niveau du Mention, mais vous avez aussi l'hospice du Muristan à l'intérieur, et puis vous avez d'autres hospices, donc ici à Jaffa et à Ramla, toujours gérés par la custodie. Vous avez en plus les monastères des églises orientales, notamment le monastère arménien qui sert, vous l'avez ici, Saint-Jacques le Majeur, hein, qui sert d'hospice pour les pèlerins. Donc les pèlerins arrivent, ils vont visiter les lieux saints, éventuellement ils ressortent, donc ils vont dormir, hein, tout simplement manger donc, à l'hospice du Mention, puis ils y retournent le lendemain matin ou l'après-midi, d'accord, pour visiter d'autres lieux saints. Donc normalement, on paye une taxe une fois pour toutes, pas à chaque fois qu'on refranchit les murs, une des portes de Jérusalem. Et donc les officiers mamelouks essayent de taxer les pèlerins à chaque fois qu'ils rentrent à Jérusalem et non pas une fois à leur arrivée dans la ville sainte. Et donc c'est ce à quoi tentent de s'opposer les franciscains. Trois autres actes, datés des sultans Barzbay et Jacques Mac, rendent compte des demandes réitérées des frères de la custodie de ne pas être tenus pour responsables du non-paiement des taxes dues par les pèlerins chrétiens ou de tout acte commis par un chrétien tombant sous le coup de la loi islamique, puisqu'à ce moment-là, ce sont les franciscains qui en payent les conséquences. C'est d'ailleurs peut-être dans ce contexte qu'il faut comprendre l'emprisonnement de deux franciscains. On revient à l'époque de Sarteano, emprisonnement rapporté par Sarteano en 1436. La lettre toute rhétorique qu'il adresse aux frères Antoine et Luc les enjoint de ne pas craindre le martyr, voire de le rechercher, par la réitération d'expressions type « ardor pro Christo » ou « desiderium patiendi », et ne donne aucune précision sur les circonstances de leur emprisonnement. Elle a néanmoins le mérite de nous apprendre l'emprisonnement de deux frères de la custodie à l'automne 1436 et de compléter ainsi l'éventail des modalités des relations entretenues par les franciscains avec les autorités mamelouques. Peut-être furent-ils victimes des mêmes circonstances que les pèlerins et les consuls de Gênes et Venise à Jérusalem, emprisonnés par Barzbay en 1422 en réponse aux actes de piraterie visant les navires mamelouks en Méditerranée. Au-delà de ces mesures de rétorsion ponctuelles, le règne de Barzbay marque un retour à une politique impériale, certes davantage destinée à assurer la mainmise du sultan sur le commerce méditerranéen qu'à accroître son emprise territoriale. Son plus haut fait d'armes prend place 10 ans avant l'arrivée de Sarteno dans la région, l'occupation de Chypre à la suite des expéditions navales de 1425 et 1426, et la capture du roi Janus de Lusignan qui s'ensuit, ramené en triomphe au Caire, le jour de la fête de la rupture du jeûne, le premier donc du mois Shawwal 829, soit le 6 août 1426, coïncident qui plus est, ce qui tombait assez bien cette année-là, avec l'acmé de la crue du Nil, donc mesurée au nilomètre du Caire. En revanche, il s'en fallut de peu que le franciscain ne se retrouve à Rhodes lors de l'expédition lancée par Jacques Mac, cette fois en août 1440, en réponse aux actes de piraterie menés par les hospitaliers depuis Rhodes. L'emprisonnement de deux frères franciscains rapportés par Sarteano indique donc à la fois la précarité de la situation des frères de la custodie, la situation se reproduit en 1444, cette fois au Caire, la labilité et la complexité des relations nouées entre les franciscains et les autorités mamelouques, qui peuvent dans le même temps conduire à l'emprisonnement de deux frères et à la reconnaissance des droits des franciscains à Bethléem ou à l'autorisation des travaux de réparation des bâtiments, y compris cultuels, des franciscains à Jérusalem. Et enfin, constitue un bon indicateur de l'image de la situation de la custodie que veut donner Sarteano à ses lecteurs occidentaux, c'est-à-dire une custodie menacée. On peut en effet douter que la lettre du franciscain soit réellement adressée aux deux frères. Je ne vois pas d'ailleurs très bien comment elle serait arrivée dans leur prison. On peut en effet, à ce moment-là, imaginer qu'elle a d'abord été destinée aux lecteurs demeurés en Occident afin de les pousser à soutenir la présence des franciscains en Terre Sainte par l'exaltation du martyr et l'insistance sur la précarité donc, de leur situation. Gardons néanmoins en mémoire le retour à une politique impériale sous le sultanat de Barsbey et les mesures de rétorsion ponctuelles prises à l'encontre des chrétiens latins sur lesquelles nous reviendrons dans un instant en abordant la mission au Caire de Sarteano. Dernier élément de la custodie représentée par la présence de Sarteano, cette fois très bref, c'est l'idée que la présence latine s'étend à l'échelle du Bilad al-Sham, voire du sultanat mamelouk. Trois indices témoignent de l'extension de la custodie à l'échelle du sultanat mamelouk. D'abord, les lieux d'où Sarteano écrit ses lettres. Le couvent du Mont-Sion, le Saint-Sépulcre et Bethléem. 12 frères de la custodie ont été autorisés dès l'acte de fondation de la custodie à demeurer à l'intérieur du Saint-Sépulcre. Ils y ont d'abord été enfermés, puis ensuite, la situation s'est améliorée. Donc, ils sont présents au Saint-Sépulcre, comme à l'extérieur, donc au couvent du Mont-Sion, près du Cénacle. Si on quitte Jérusalem et ses environs immédiats, donc à savoir Bethléem, cette extension donc, de la présence de la custodie se voit également par l'envoi du frère Jean, fils de Abi al-Mansour, fils de Bichariya, en tant que représentant du custode du Mont-Sion au Caire, pour récupérer la validation des travaux par le juge placé à la tête de l'école anafite d'Égypte. C'est-à-dire que dans la procédure que nous avons évoquée ensemble, il y a un moment où il va falloir faire valider la conformité des travaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a une plainte déposée pour non-conformité des travaux. Et cette validation, elle doit être, donc recueillie aussi donc auprès de l'école anafite d'Égypte. Et pour cela, on envoie un frère de la custodie, qui parle l'arabe, auprès donc de l'école anafite pour obtenir cette autorisation, la récupérer et la rapporter. Et elle est aujourd'hui dans les archives placées, donc conservées aux archives de la custodie. Enfin, troisième élément qui nous montre l'extension de la présence franciscaine, ce sont les établissements franciscains qui sont donc mentionnés dans les actes établis par la chancellerie mamelouk, notamment l'hospice de Ramla, que vous avez donc ici donc sur la carte, donc qui était situé sur la route de Jérusalem pour accueillir les pèlerins, ou encore le couvent de Beyrouth, dont le supérieur est mandaté auprès de Sarteano pour lui servir d'interprète auprès du patriarche copte lors de sa mission kérote. Nous passons donc maintenant à la deuxième mission de Sarteano, beaucoup plus brièvement, cette mission au Caire, accompagnée donc par le supérieur du couvent franciscain de Beyrouth, dépendant aussi de la custodie. Donc la mission d'Albert de Sarteano au Caire. En 1440, Albert de Sarteano est à nouveau envoyé en mission au Proche-Orient, cette fois explicitement en lien avec la politique d'union de la papauté et le concile réuni à Ferrare-Florence, qui a d'ores et déjà permis donc l'union avec les Grecs. Il est nommé commissaire apostolique pour, en Inde, donc on va parler de l'Inde, mais ce n'est pas la même Inde, hein, c'est l'Éthiopie ici, hein, en Inde, en Égypte, en Éthiopie et à Jérusalem. Il se rend au Caire pour y rencontrer le patriarche copte, en vue de préparer l'union de son Église avec Rome, donc dans le cadre du concile de Ferrare-Florence. Le concile de Ferrare-Florence constitue sans doute l'acmé des relations entre l'Occident et l'Éthiopie au XVe siècle, tant par l'intérêt manifesté par le pontife et les acteurs du concile pour la délégation éthiopienne, que par l'importance quantitative des sources conservées. Avant d'en venir donc à quelques remarques conclusives, c'est sur ce contexte présidant au concile, et non sur le concile lui-même, que nous allons à présent nous attarder. Je dois dire ici ma dette envers deux articles écrits récemment par Benjamin Weber et Samantha Kelly, respectivement en 2012 et 2016, au sujet du contexte éthiopien et copto-éthiopien environnant la double ambassade, donc copte et éthiopienne. Double ambassade qui est conduite, donc la première pour l'ambassade copte donc par Andrea, donc l'abbé du monastère Saint-Antoine en Égypte, qui représente donc le patriarche copte d'Alexandrie, Jean XI, alors on dit patriarche d'Alexandrie, mais il est au Caire, et la seconde ambassade, donc l'ambassade éthiopienne, qui est conduite par Pétros, qui est mandaté par Nicodème, pardon, l'abbé du monastère éthiopien de Jérusalem. Donc une ambassade copte qui vient d'Égypte et une ambassade éthiopienne qui vient de Jérusalem. Pourquoi les Éthiopiens et les Coptes ensemble? Il suffit juste de rappeler ce que vous savez sans doute, c'est-à-dire la dépendance ecclésiologique de l'Église éthiopienne vis-à-vis du patriarcat copte d'Alexandrie, donc installé au Caire, dépendance en vertu de laquelle le patriarche Jean XI affirme à Albert de Sarteano représenter à la fois les églises coptes et éthiopiennes. Propos, bien sûr, que le franciscain s'empresse de rapporter au pape Eugène IV dans une longue lettre qu'il écrit depuis Rhodes. Donc il arrive d'Occident, il s'arrête à Rhodes, il part pour le Caire, il retourne à Rhodes, il repart en Occident avec donc ses ambassadeurs. Et il va immédiatement dire donc au pape qu'il est très content parce qu'il va rentrer avec les coptes et les éthiopiens, que ça va permettre une union avec l'église copte et éthiopienne. Bien. Pourtant, en dépit donc de cette dépendance ecclésiologique et du fait que donc le patriarche copte dise « c'est très bien, si vous faites l'union avec nous, vous faites en même temps l'union avec l'Éthiopien », avec l'Église éthiopienne, pourtant, qu'est-ce qu'il est forcé de constater qu'à Florence, nous avons deux ambassades, une ambassade copte qui vient du Caire, une ambassade éthiopienne qui vient donc de Jérusalem. Alors pourquoi ces deux ambassades, en dépit des propos du patriarche copte et en dépit donc de cette dépendance ecclésiologique de l'Église éthiopienne vis-à-vis de l'Église copte? Alors, pour cela, il faut revenir donc au contexte des Éthiopiens de Jérusalem, à l'identité de ces Éthiopiens de Jérusalem. Donc Samantha Kelly a montré de manière très convaincante que ces Éthiopiens de Jérusalem, donc les membres de l'ambassade florentine, étaient des moines eustatéens. Alors ces moines eustatéens sont nommés d'après le moine Eostatéos, Eustate dans sa forme francisée, qui dans la première moitié du XIVe siècle prenait l'indépendance du monachisme vis-à-vis des séculiers et du pouvoir politique, une stricte monogamie, ainsi qu'un retour à des usages anciens, notamment l'observance du double sabbat et à divers interdits alimentaires. Il meurt en exil en Cilicie, en Arménie, en 1352. En 1441, donc, ces eustatéens constituent une communauté schismatique plus ou moins tolérée, dont les pratiques sont en rupture avec l'Église éthiopienne. Le Concile de Florence est alors intégré par les Coptes, comme par les eustatéens, à leur propre stratégie. Les uns, c'est-à-dire les Coptes, recherchent des alliés face aux Mamelouks et une reconnaissance de la condamnation des usages eustatéens considérés comme déviants. Les autres, c'est-à-dire les Éthiopiens de Jérusalem, donc des Eustatéens, recherchent à la fois à combattre leurs opposants les plus virulents, c'est-à-dire le patriarcat copte du Caire, et à gagner en influence auprès du souverain éthiopien, donc Zara Jacob, afin d'être reconnu au sein de l'Église éthiopienne. Ce qui marchera plutôt bien, d'ailleurs. Qu'en retirer pour notre propos? Concernant la politique d'union de la papauté, elle semble d'abord le fait d'acteurs extérieurs à la custodie et à la communauté franciscaine installée au Proche-Orient. C'est-à-dire que la custodie ne joue qu'un rôle d'adjuvant sans prendre une part active dans la politique d'union. Peut-être faut-il tout simplement y voir les conséquences de la méfiance des autorités mamelouks face à une alliance entre les églises chrétiennes d'Occident et d'Orient qui pourrait prendre la forme d'une alliance militaire, singulièrement si elle intègre l'Éthiopie, dont le nouveau souverain, donc Zara Jacob, fonde en partie sa légitimité sur sa résistance au sultanat mamelouk. La défiance des sultans mamelouks explique le climat de secret qui environne la mission de Sarteano, singulièrement dans le contexte des actes de piraterie visant les navires mamelouks, donc orchestrés depuis Rhodes par les hospitaliers. Ceci établit, qu'en est-il de la compréhension par Sarteano de la complexité des relations entre les églises coptes et éthiopiennes et des divisions internes à l'église éthiopienne? La traduction latine de la lettre envoyée en Gèze au pape par Nicodème ne laisse guère d'ambiguïté, tant elle dénonce clairement la duplicité du patriarche et des sarrasins, donc le nom donné au Mamelouk, dont il fallait se cacher pour que, je cite, « l'union ne soit pas empêchée pour divers motifs liés à l'ambition et à la perfidie, comme ils ont coutume de le faire. » Ils, c'est-à-dire le patriarche copte et les Mamelouks. Pour autant, Sarteano en avait-il préalablement connaissance et quel rôle éventuel a-t-il pu tenir dans la venue d'une ambassade éthiopienne hiérosolomitaine à Jérusalem? La possibilité d'un second voyage à Jérusalem, donc de Sarteano, à l'occasion de sa mission au Caire, fait débat. Sans entrer dans les détails, les arguments infirmant un tel voyage me semblent emporter la conviction. Néanmoins, s'il ne s'est pas rendu en personne à Jérusalem en 1440 pour y rencontrer l'abbé Nicodème, donc à la tête de la communauté éthiopienne de la ville sainte. Il reste à expliquer comment est parvenu à ce dernier le message qu'il évoque dans une lettre donc écrite à Eugène IV, alors qu'Albert est de retour à Rhodes dans l'attente donc des délégations coptes et éthiopiennes. Afin d'éclairer ce point, il faut une fois de plus recourir aux archives de la custodie. Un acte d'achat de la custodie, qui est encore inédit et absent du catalogue établi par Castellani, acte daté de novembre 1430, soit avant la mission de Sarteano, décrit les confins d'une nouvelle acquisition sise à proximité du couvent du Mont-Sion. Je cite « À l'ouest, le monastère des frères, au sud, leur vignoble, à l'est, la parcelle appartenant aux juifs, au nord, l'hospice et le monastère éthiopien. » L'allusion à un terrain appartenant aux juifs est à replacer dans le contexte du mouvement d'achat de terrain par les juifs lié à la localisation de la tombe de David sous le Cénacle, mouvement qui s'accélère dans la première moitié du XVe siècle. La mention la plus importante pour notre propos est celle de la présence de l'hospice et du monastère éthiopien à proximité immédiate du couvent franciscain. Si un second voyage à Jérusalem de Sarteano, entre son arrivée à Rhodes et son séjour au Caire, est invérifiable en l'état actuel de nos connaissances, voire peu probable, la tentation est grande de supposer que le franciscain ait pu nouer des relations avec les Éthiopiens, eustatéens donc, de la communauté de Jérusalem, lors de sa première mission, particulièrement avec leur abbé. Il aurait ainsi pu faire envoyer un message à l'abbé Nicodème via un frère de la custodie présent au Caire ou un fidèle de l'église éthiopienne en Égypte. Pour conclure, les missions à Jérusalem et au Caire, juste pour vous montrer, j'ai oublié de vous montrer la carte du Caire en plus grand, pardon. Les missions à Jérusalem, donc quand il va au Caire, il va là, hein, il va donc dans le vieux Caire, Kachr al-Sham, donc ici, Babylone, dans les sources latines, hein, le patriarcat est ici. Les missions à Jérusalem donc, et au Caire de Sarteano donnent ainsi à voir la complexité du Proche-Orient, sphère régionale, et vous avez ici une idée hein, de cette sphère régionale dont je parle à l'instant, sphère régionale à l'intérieur de laquelle se négocient les relations entre les différentes communautés et entre les communautés et les pouvoirs auxquels elles sont soumises, le sultanat mamelouk et l'interland occidental que constituent l'ordre franciscain et la papauté, donc pour la custodie. En Orient islamique, où les communautés chrétiennes sont localement restées majoritaires, numériquement parlant, hein, parfois jusqu'au XIIIe siècle, c'est le cas en Égypte, et n'ont cessé de constituer d'importantes minorités jusqu'à la fin de la période mamelouk, l'analyse des relations entre pouvoir et souverain, église et communauté, et des modalités selon lesquelles ces dernières ont intégré ces relations dans la définition de leurs pratiques et de leur identité propre, donc ne saurait se limiter, comme nous l'avons vu, au constat minimal de l'existence d'un cadre légal, la dhimma ou pacte de protection. Si les principes de la dhimma sont demeurés pour l'essentiel inchangés au cours de la période considérée, les conditions d'existence d'exercice, de mise en œuvre de la dhimma, l'aménagement de privilèges et d'exemptions, le durcissement de ces exigences, ont varié en fonction des contextes, idéologie dominante, guerre, rapports de forces locaux, relations diplomatiques. Nous avons vu les différentes positions du sultan Barzbey vis-à-vis des Géorgiens, des Arméniens, des Franciscains, et on peut très bien avoir des décisions qui vont dans des sens différents au sein du même sultanat, donc, dans une même période de temps. La diversité et la compétition des églises chrétiennes en Orient a favorisé le jeu des autorités islamiques placées en position d'arbitrage, nous l'avons vu au moment donc de ce dossier sur les travaux à effectuer à la custodie. Symétriquement, nous l'avons vu également à cette occasion, la compétition des écoles de pensée musulmanes, donc madhab, la faveur accordée à l'une ou l'autre par le pouvoir en place, a pu modifier localement, par le jeu donc, des consultations juridiques, les fatwas, les conditions et la mise en œuvre, les conditions de la mise en œuvre de la dhimma. Après la conquête de Jérusalem, Saladin s'est employé à restaurer l'ordre antérieur à la domination franque, qui se caractérisait donc sous les Francs par la marginalisation des églises melkites et orientales. Après la conquête donc de Jérusalem, si les melkites, par Salahaddin, si les melkites connaissent quelques déboires, les géorgiens et les deux communautés donc miaphysites de Jérusalem, les arméniens et les coptes, bénéficient à nouveau d'une situation dominante. Après la période ayoubide, les mamelouks se prononcent en faveur du statu quo, mais dans un contexte de forte islamisation auquel ils contribuent individuellement, notamment par le biais de fondations pieuses. À ce premier niveau de complexité qui traduit la forte bigarrure de la société islamique, s'ajoute l'intervention d'acteurs collectifs extérieurs au domaine de l'islam, d'Ar al-Islam, dont la présence provisoire en Orient ne relève pas du droit de la dhimma, mais du sauf-conduit, l'aman, défini dans le cadre d'une négociation ad hoc. C'est le cas des pèlerins. Donc c'est dans ce cadre, d'Imma et Amman, que prend place le rétablissement des communautés latines en Orient après la chute des États francs, 1291, et l'émission du franciscain Albert de Sarteano. La loi islamique ne s'appliquait pas donc tout uniment aux différentes communautés chrétiennes présentes en Orient. Réciproquement, la production normative de chaque église est à replacer dans un contexte compétitif et mouvant, en fonction également du statut légal dont chacune pouvait ou non se prévaloir. Il convient par conséquent de postuler le caractère variable, sinon volatile, de l'identité collective de chaque communauté, reformulée dans une tension constante entre autodéfinition et reconnaissance par les autorités, légitimité historique et opportunité sociale. L'étude du rôle et de la place des latins au Proche-Orient, particulièrement des franciscains de la custodie, doit donc se faire dans la perspective de l'étude d'une présence négociée face au pouvoir mamelouk et aux autres églises chrétiennes. Il ne s'agit pas ici de prendre en compte les conditions, la dimension guerrière et violente de la conquête, mais ses conséquences bien évidemment politiques et socioculturelles, et la définition d'une sphère politique régionale dans laquelle sont négociées les relations entre chrétiens et entre chrétiens et musulmans. Cette analyse territorialisée des latins en Orient ne doit pas pour autant faire oublier les liens noués avec l'Interland exclusivement occidental, la curie pontificale et les cours princières d'Europe. Dans cette perspective, l'analyse des missions d'Albert de Sarteano, considérées depuis leur contexte proche-oriental, à la fois chrétien et islamique, montre que les latins de passage ou installés durablement, voire nés au Proche-Orient, sont à la fois pleinement investis dans la vie sociale, politique, religieuse du Proche-Orient et impliqués dans la réforme de l'Église d'Occident et les négociations en vue de l'union entre Rome et les Églises grecques et orientales. Je vous remercie.
Il y a peut-être des questions de la salle, mais je vais peut-être commencer avec une question moi-même pour remettre ça dans un contexte un peu plus large comme personne qui s'intéresse à l'histoire ibérique surtout. Alors, vous voyez qu'à la fin du 15e, donc à peu près un demi-siècle après ces événements, il y a une nette détérioration dans l'image des Mamelouks à la fois en Castille et au Portugal. Et en fait, de façon telle qu'ils ont des projets tous les deux, notamment les Portugais, pour organiser plus ou moins la chute de sultanat Mamelouk, qu'ils ont même commencé à traiter comme le sultanat de Babylonie et en utilisant de la terminologie de ce genre. Alors, donc, si j'ai bien compris vos propos, il y a cette espèce de clivage entre ce qui serait les réalités sur place et l'image à distance. Donc, en fait, finalement, les gens qui sont dupes dans cette affaire, ce n'est pas tellement les Mamelouks, mais en réalité, les pouvoirs à distance en Occident.
Oui, tout à fait. On voit très bien quand on lit les lettres d'Albert de Sarteano, on est vraiment dans une polémique anti-islamique, tout ce qu'il y a de plus classique, destinée aux lecteurs occidentaux, et lui ne rapporte absolument pas ce qu'il va voir et ce qu'il va vivre à Jérusalem. Et il est bien évident que cette procédure, il est sur place, donc il va en suivre toutes les étapes, et donc il voit très bien comment les franciscains vivent sur place dans cette négociation permanente. Donc l'image qu'il va renvoyer en Occident est totalement différente et beaucoup plus effectivement dans une idée de construction d'une présence franciscaine, avec le topos de la ruine, etc., et de cette polémique anti-islamique. Et là, on a un divorce effectivement complet. Maintenant, j'imagine bien que les responsables de l'ordre sont parfaitement au courant de ce qui se passe à la custodie à Jérusalem et savent très bien qu'on est dans une négociation constante, de la même manière qu'on a des relations commerciales, etc., qui se passent relativement bien avec les différents acteurs du sultanat mamelouk.
D'accord. Mais aussi, semble-t-il que les Italiens et les Ibériques ont une vision assez différente, en fin de compte.
Tout à fait.
Alors, donc, d'autres questions, de remarques par rapport à la communication de Camille Lux, peut-être? Donc, je vais revenir à encore une deuxième question que j'ai en tête. C'est pourtant sur ces fameuses lettres de prêtre Jean en hébreu du XVe siècle. Alors, Est-ce que ça c'est lié avec le cadre de ces missions que vous avez évoquées, ou est-ce que, parce que vous savez que parfois on a dit que tout le soupçon que pèse sur le crypto-judaïsme des Éthiopiens au XVIe siècle, en fait il y a des racines peut-être dans le fait qu'il y avait ces lettres déjà au XVe siècle. On se demandait pourquoi est-ce qu'elles s'exprimaient de cette façon, etc. Est-ce que c'est un cadre séparé ou c'est lié en quelque sorte avec ce qui se passe ici?
Non, alors deux choses. Il y a un ouvrage effectivement qui vient de sortir sur l'influence de la littérature hébraïque hein, dans l'élaboration de la légende du prêtre Jean et notamment sur la question des tribus perdues d'Israël et sur la récupération aussi par les Juifs de ce mythe des tribus perdues d'Israël pour affirmer l'existence d'un État territorialisé face à ce qu'ils peuvent subir en Occident et face aux contraintes de la diaspora. Donc sur les liens effectivement entre la version chrétienne, enfin entre les influences chrétiennes, les influences juives autour de la légende du prêtre Jean. Il est bien évident que le regain d'intérêt pour l'Éthiopie dans la première moitié du XVe siècle, regain d'intérêt qui est à la fois éthiopien et occidental, puisqu'on a aussi des ambassades qui viennent d'Éthiopie en Occident, donc l'intérêt, ils se retrouvent dans un intérêt commun ici autour d'une alliance commune. Donc le renouveau de l'intérêt pour l'Éthiopie, l'ambassade éthiopienne au Concile de Florence a énormément marqué. Hein, on a bien sûr beaucoup de descriptions. Ce renouvellement de l'intérêt pour l'Éthiopie dans la première moitié du XVe siècle va entraîner un renouveau, bien sûr, autour de du thème du prêtre Jean. Et d'ailleurs, quand le pape s'adresse au souverain éthiopien, donc au Négus, il s'adresse au prêtre Jean. Donc on retrouve toujours le roi David et le prêtre Jean, encore au XVe siècle et bien après à la période moderne. Sur la question du judaïsme, c'est plus compliqué. En ce moment, je travaille pas mal sur les circulations de légendes effectivement entre l'Éthiopie, l'Égypte et la Palestine, où on retrouve la question du judaïsme pour l'origine de l'Éthiopie autour de la reine de Saba et de Salomon. Donc ces questions du lien entre le judaïsme et l'Éthiopie sont des choses qui circulent en Occident dès le XIIe siècle. Donc même peut-être avant, mais en tout cas moi, dans les légendes sur lesquelles je travaille dès le XIIe siècle, sur le voyage de la reine de Saba, la rencontre avec Salomon, sur le fait que le baumier de Matarié aurait été apporté d'Éthiopie par la reine de Saba, puis ensuite transposé de Palestine à Matarié en Égypte. Donc ces questions de circulation, on les trouve dans les textes dès le XIIe siècle. Maintenant, sur la polémique, enfin, je ne vois pas en tout cas de traces de polémique anti-juive directe liée à ces questions-là. Mais renouveau du prêtre Jean et circulation de ces légendes qui vont relier effectivement le judaïsme à l'Éthiopie, oui.
Donc pour la polémique, il faut peut-être attendre la contre-réforme parce que
peut-être,
c'est
tout à fait, dans le contexte jésuite et puis aussi de toute l'expansion jésuite dans cette direction-là.
Bon, peut-être une dernière question ou remarque.